Les 39 marches. Chapitre 5. L'aventure du cantonnier à Bézicle. Je m'installai sur l'endroit le plus élevé du site pour faire le point sur ma situation. Derrière moi, la route s'élevait au cœur d'une longue faille traversant la montagne jusqu'à son plateau supérieur, la source de quelques cours d'eau remarquables. Au-devant s'étendait une surface plane d'environ un mile, toute piquetée de trous marécageux et hérissée de touffes d'herbe. Au-delà, la route dévalait abruptement un autre ravin vers une plaine dont les lointains s'estompaient dans un bleu pâlissant. À gauche et à droite se tenaient de verts sommets aux contours arrondis et aussi lisses que des pancakes. Au sud, c'est-à-dire sur ma gauche, on apercevait de hautes cimes recouvertes de bruyères. Je reconnus le massif montagneux que j'avais repéré sur la carte en vue d'y assurer ma retraite. J'étais sur la colline centrale d'un vaste plateau et je pouvais repérer à plusieurs miles le moindre mouvement. Dans les prairies, à un demi-mile au-dessous de la route, de la fumée sortait de la cheminée d'une chaumière. C'était là l'unique signe de vie humaine. Hormis cet indice, on ne pouvait percevoir que les appels des pluviers et le murmure de petits torrents. Il était alors près de 7 heures, et comme je restais là, immobile, je discernais, une fois de plus, le vrombissement aérien de mauvais augure. Je compris alors que mon poste d'observation pouvait tout aussi bien devenir un piège. Il n'y avait pas de quoi cacher une mésange parmi ces vertes solitudes. Immobile et résigné, j'entendis le ronflement se rapprocher. Je vis ensuite un aéroplane surgissant de l'est. Il volait haut, mais sous mes yeux, il s'abaissa de quelques 100 pieds et se mit à décrire des orbites toujours plus étroites autour du massif montagneux, exactement comme manœuvre un faucon avant de s'abattre sur sa proie. Son altitude décroissait toujours, et bientôt l'observateur à bord de l'avion fut visible. Je le vis braquer sur moi ses jumelles. Puis il se mit tout à coup à remonter rapidement en spirale, et je ne tardai pas à le voir s'enfoncer de nouveau vers l'est et se réduire à un point dans l'azur matinal. Cela m'inspira de sombres pensées. Mes ennemis m'avaient repéré, ils ne tarderaient pas à m'encercler. J'ignorais de quelles ressources ils disposaient, mais j'étais convaincu qu'ils y mettraient les moyens. L'aviateur avait aperçu ma bicyclette et pouvait supposer que je tenterais de fuir par la route. Dans ce cas, il me restait une chance en fuyant par la bruyère, à droite ou à gauche. Je déplaçai le vélo d'une centaine de mètres de la route et le projetai dans une mare, où il s'enfonça parmi les roseaux et les renoncules aquatiques. Puis je montai sur un tertre d'où l'on découvrait les deux vallées. Rien ne bougeait sur le long ruban blanc qui les traversait. J'ai dit qu'il n'y avait pas de quoi cacher une souris dans toute la contrée. À mesure que le jour avançait, la lumière matinale la baignait d'un éclat plus chaud, au point de me rappeler le vel sud-africain et sa touffeur embaumée. Dans d'autres circonstances, ce pays m'aurait plu, mais pour l'heure, j'y étouffais. Les vastes étendues de bruyère n'étaient que des murs de prison et l'air vif des montagnes, le souffle d'un cachot. Je lançai une pièce de monnaie en l'air. Face, j'irai à droite, pile à gauche. Elle tomba sur la face et je m'engageai vers le nord. En peu de temps, j'arrivais sur le bord d'une crête qui formait l'ultime côté du plateau montagneux. Je découvrais la grande route sur une distance d'environ 10 miles, et tout là-bas, je crus apercevoir un objet mouvant que je supposais être une auto. Par-delà l'arête s'étalait, onduleuse, la verte bruyère qui se perdait dans des vallons boisés. Or, l'existence dans le Veld m'avait donné une vue perçante, et je peux voir des choses que la plupart des gens ne remarquent qu'avec des jumelles. Tout au bas de la pente, à quelques miles, plusieurs points sombres avançaient en ligne comme les rabatteurs d'une chasse. Je me dissimulais hors de leur vue derrière la ligne d'horizon. Cette direction m'étant interdite, il me fallait essayer les montagnes élevées du sud au-delà de la grande route. L'auto que j'avais remarqué se rapprochait, mais il lui restait encore à franchir une bonne distance avec plusieurs montées très accentuées. Je me mis à courir rapidement, ne me redressant que dans les creux et ne cessant de surveiller la pente de la montagne devant moi. Illusion ou réalité, je croyais voir des personnes, une, deux, plus peut-être, avancer dans un ravin de l'autre côté du torrent. Quand on est coincé de toutes parts sur un morceau de terrain, il n'y a plus qu'une façon d'en échapper. Il faut s'immobiliser sur place et laisser les ennemis chercher en vain. Et c'était le bon sens, mais comment diable échapper aux recherches sur cette espèce de table rase? Je n'aurais pas hésité à m'enterrer jusqu'au cou dans la vase, à rester sous l'eau ou à grimper sur la plus haute branche, mais il n'y avait pas la moindre brindille de bois. Les trous marécageux n'étaient que des mares minuscules, le torrent un simple filet d'eau. Il n'y avait rien d'autre que la bruyère rase, le flanc pelé de la montagne et la grande route blanche. C'est alors que, dans un repli invisible depuis la route, devant un tas de cailloux, je tombai sur un cantonnier. Il venait d'arriver et martelait sans entrain. Il me regarda d'un œil vitreux et bâilla.
Maudit soit le jour où j'ai quitté mon champ, lança-t-il comme parlant à l'univers. Au moins, je dépendais de personne alors. Maintenant, me voilà esclave du gouvernement, enchaîné à la route, avec des yeux malades et des reins ratatinés.
Il souleva son marteau, frappa un caillou, et, rejetant l'outil, il jura en portant les mains à ses oreilles en s'écriant
« Bon Dieu ! Ma tête va exploser !»
Hirsute, à peu près de ma taille, mais très voûté, il portait une barbe de 8 jours et de grosses besicles en corne sur le nez. Il s'écria de nouveau
« J'en peux plus ! Que l'inspecteur me signale, tant pis, je retourne me pieuter !»
Je l'interrogeai sur la nature de sa maladie, bien que ce fût assez clair.
« C'est que j'ai bu, v'là. Ma fille Meran s'est mariée hier. On a dansé jusqu'à 4 heures du matin. Moi, je suis resté à boire avec d'autres, et voilà. J'aurais pas dû vérifier que le vin avait un arrière-goût de framboise. »
Je lui concédai qu'il ferait mieux d'aller se recoucher. Il gémit.
« Facile à dire, mais j'ai reçu hier soir un avis de passage me disant que le nouvel inspecteur des ponts et chaussées faisait sa tournée aujourd'hui. Il va venir et me trouvera pas, ou ben il me trouvera sous. De toute façon, je suis foutu. Je vais retourner me coucher et je dirai que je suis malade. J'ai peur que ça prenne pas, parce qu'on connaît ma maladie. »
Il me vint une idée. Je lui demandai « Est-ce que le nouvel inspecteur vous connaît ?»«
Lui, pas du tout. Il n'y a pas 8 jours qu'il est en place. Il court tout côté dans son auto de malheur et vous délogerez du fond d'un trou. »«
Où est votre maison ?» demandai-je. Et il me montra d'un doigt chancelant une cabane au bord du torrent. Je lui dis « Eh bien, retournez-vous coucher et dormez tranquille. Je vais tenir votre poste pour le moment et je verrai l'inspecteur. »
Il me regarda, ébahi, puis quand l'idée eut pénétré sa cervelle avinée, le sourire stupide de l'ivrogne s'épanouit sur son visage. Il s'écria « Zet un compère, ça peut pas être mieux. Comme j'ai fini ce tas de cailloux, vous aurez pu à en casser ce matin. Reste à prendre la brouette pour porter les pierres à la carrière là-bas. Assez pour faire un autre tas. Je m'appelle Alexander Turnbull. Il y a 7 ans que je fais ce métier. Avant, j'étais 20 ans cultivateur, sur les bords de la Lesen. Mes potes m'appellent Boisson-Soif, ou bien encore Quatre-Yeux, parce que je porte des binocles à cause de mes mauvais yeux. N'aurait qu'à parler poliment à l'inspecteur et lui dire « Sir, il en demandera pas plus. Je serai de retour à midi. » Je lui empruntai ses besicles et son vieux chapeau crasseux. J'ôtai veste, gilet, col, et les lui donnai à emporter dans sa cabane. Je lui empruntai aussi son infect mognon de pipe en terre pour compléter l'accoutrement. Il m'indiqua mes modestes fonctions et, sans plus de façon, partit en trottinant vers son lit. Bien que le lit fût son objectif principal, je suppose qu'il lui restait encore un vieux fond de bouteille. Je fis des vœux pour qu'il arrive sans encombre sous son toit avant l'arrivée de mes nouveaux amis. Après quoi, je m'astreins à rendre ma toilette plus conforme à mon rôle. J'ouvris le col de ma chemise, une simple chemise bleue à carreaux blancs comme en portent les terrassiers, et exposé à un cou plus basané que celui d'un rétameur ambulant. Je remontai mes manches jusqu'au coude, découvrant ainsi des avant-bras dignes de ceux d'un forgeron, brûlés de soleil et sillonnés de vieilles cicatrices. Je saupoudrai de poussière mes bottines et le bas de mon pantalon, le relevant et le liant au-dessus du genou à l'aide d'une ficelle. Puis je grimai mon visage. Avec une poignée de poussière, je traçai une démarcation de crasse autour de mon cou, à l'endroit où étaient censées s'arrêter les ablutions dominicales de Turnbull. J'enduisis également d'une bonne couche de poussière le hâle de mes joues. Et comme les yeux d'un cantonnier ne peuvent manquer d'être un peu enflammés, j'eus soin de projeter de la poussière dans les miens et leur donner un aspect chassieux en les frottant vigoureusement. Les sandwiches que j'avais reçus de Sir Harry étaient restés dans ma veste, mais la collation du cantonnier, emballée dans un mouchoir rouge, se trouvait à ma disposition. Je mangeai avec grand plaisir plusieurs grosses tranches de pain bis et de fromage, et bus une partie du thé froid. Le mouchoir contenait aussi, noué par une ficelle et adressé à Turnbull, un journal local, apparemment destiné à agrémenter sa sieste. Je refis le paquet et déposai à côté le journal bien en vue. Mes bottines ne s'accordaient pas à mon apparence. Au moyen de quelques bons coups de pied dans les cailloux, je leur donnai cet aspect granité qui caractérise la chaussure du cantonnier. Puis je rongeai mes ongles et les éraflai, si bien que les bords en étaient tout abîmés et irréguliers. Aucun détail ne devait échapper aux individus contre lesquels j'étais en lutte. Je cassai un de mes cordons de souliers et le rattachai par un nœud grossier, puis je desserrai l'autre de sorte que mes épaisses chaussettes débordaient par-dessus les tiges. Toujours aucune trace de qui que ce fût sur la route. L'auto que j'avais remarqué une demi-heure plus tôt avait dû faire demi-tour. Ma toilette terminée, j'empoignai la brouette et commençai à faire la navette jusqu'à la carrière située à une centaine de mètres. Un vieil aventurier rencontré en Rhodésie et qui avait commis en son temps de bien drôles de méfaits me révéla que le secret, pour bien s'imprégner d'un rôle, c'est de se convaincre d'être réellement devenu le personnage. En conséquence, je me dépouillai de toute autre pensée pour m'absorber dans une seule, à savoir l'entretien des routes.
je me représentais l'intérieur de ma petite cabane blanche. Je me remémorais les années où j'étais cultivateur sur les bords de la Leithen Water. Je contraignis mon esprit à désirer voluptueusement le repos d'un lit et une bouteille de whisky à bon marché. Toujours rien sur la longue route blanche. De temps à autre, un mouton s'écartait de la bruyère pour venir m'observer. Un héron s'abattit dans une vasque du torrent et se mit à pêcher sans plus se préoccuper de moi que si j'avais été un poteau indicateur. J'allais, toujours transportant mes brouettées de cailloux, avec la pesante dégaine du professionnel. Je ne tardais pas à suer, et la poussière de mon visage se changea en un enduit solide et persistant. Je comptais déjà les heures à supporter jusqu'au soir, quand la nuit viendrait mettre un terme à la besogne monotone de Turnbull. Tout à coup, une voix cassante m'apostropha depuis la route, et, en levant la tête, je vis une petite Ford à deux places et un jeune homme à la figure ronde portant un chapeau melon. Il me demanda « C'est vous, Alexander Turnbull ? Je suis le nouvel inspecteur des ponts et chaussées du comté. Vous habitez Black Hopfoot et vous êtes chargé de la section comprise entre Ludlow Buys et Riggs. » Bien. Un joli bout de route, Turnbull. Pas mal entretenu. Un peu mou à un mile d'ici, et les bas-côtés ont besoin d'être désherbés. Veillez à vous en occuper. Je vous dis au revoir. La prochaine fois, quand vous me verrez, vous me reconnaîtrez comme ça. D'évidence, mon imposture avait fonctionné pour le redoutable inspecteur. Je me remis au travail, et vers la fin de la matinée, je fus diverti par un peu de passage. Une carriole affronta la montagne, et un boulanger me vendit un sachet de biscuits au gingembre que je bourrai à tout hasard dans la poche de mon pantalon. Puis passa un troupeau suivi de son berger. Il m'inquiéta un instant quand il me demanda bruyamment
« Et quatre yeux, qu'est-ce qui devient ?»«
Il est dans son lit, avec la colique, » répondis-je. Et le troupeau s'éloigna. Aux environs de midi, une grosse auto dévala de la montagne, me dépassa et s'arrêta 100 mètres plus bas. Ses trois occupants descendirent comme pour se dégourdir les jambes et vinrent flâner de mon côté. Je reconnus deux de ces hommes pour les avoir vus par la fenêtre de l'auberge du Galloway, un grand brun mince et un autre bedonnant et souriant. Le troisième avait l'air d'un homme du pays, un vétérinaire peut-être, ou un petit fermier. Il portait une culotte de golfeur, et ses yeux enfoncés brillaient, vifs comme ceux d'un volatile. Il dit « Bonjour, c'est un métier bien utile que vous faites là. » Je n'avais pas levé les yeux à leur approche. Mais sur cette interpellation, je redressai lentement et péniblement le dos, à la manière des cantonniers. Je crachai vigoureusement, à la manière des Écossais d'origine modeste, et les considérai un moment avant de répondre. J'affrontai trois paires d'yeux qui scrutaient le moindre détail. «
Il y a des métiers pires et il y en a de meilleurs, » fis-je d'un ton solennel.
« Pour moi, j'aimerais mieux être comme vous, rester assis sur mon derrière toute la journée dans de bons coussins.
C'est vous qui massacrez mes routes avec vos satanés autos. Si le monde allait comme il doit, on vous forcerait à réparer ce que vous démolissez.
L'homme aux yeux de volaille fixa le journal posé à côté du paquet de Turnbull. « Je vois que vous recevez les journaux assez rapidement, » dit-il. Je jetai sur la feuille un regard négligent. « Ouais, assez vite. Étant donné que cette feuille est parue samedi dernier, j'ai que 6 jours de retard. » Il le ramassa, regarda l'adresse et le reposa. L'un de ses compagnons inspectait mes bottines, et d'un mot en allemand, il attira sur elles l'attention de mon interlocuteur qui me dit « Vous avez des chaussures de belle facture. Elles n'ont sûrement pas été fabriquées par un sabotier de village. »« Comme vous dites, » répliquai-je promptement. « Elles ont été fabriquées à Londres. » Je les ai reçus du monsieur qui était ici l'an dernier pour chasser. Comment qu'il s'appelait déjà? Et je me grattai la tête d'un air concentré. De nouveau le plus maigre parla en allemand. Partons, dit-il, ce n'est pas notre homme. Ils me posèrent une dernière question. Est-ce que vous avez vu passer quelqu'un ce matin de bonne heure? Il était peut-être à bicyclette ou à pied. Je faillis tomber dans le panneau et leur raconter une histoire de cycliste qui serait passé à toute allure au petit jour. Mais j'eus la présence d'esprit de percevoir le danger. Je fis semblant de réfléchir profondément. « Je me suis pas levé tôt, » repris-je. « C'est que j'ai marié ma fille hier et nous nous sommes couchés tard. » Je suis sorti de la maison qui pouvait être 7 heures, et il n'y avait personne sur la route à ce moment. Depuis que je suis ici, j'ai vu passer tout juste le boulanger et le berger de Rothschild, en plus de vous autres. L'un d'eux m'offrit un cigare. Je le reniflai respectueusement et le glissai dans le paquet de Turnbull. Ils remontèrent en voiture, et je les perdis de vue au bout de 3 minutes. Mon cœur bondit de soulagement. Mais je continuai à charrier mes cailloux. J'avais bien raison, car 10 minutes plus tard, l'auto passa de nouveau, et l'un des occupants me fit un signe d'adieu de la main. Ces charmants messieurs ne laissez décidément rien au hasard. J'achevai le pain et le fromage de Turnbull et ne tardai pas à compléter le tas de cailloux. L'avenir me préoccupait. Je ne pouvais casser et charrier indéfiniment des cailloux. Une miséricordieuse providence avait maintenu jusque-là Turnbull sous son toit, mais s'il en sortait, il y aurait du danger. Je me doutais que le nœud se resserrait autour de la vallée et que, dans quelque direction que j'aille, je me heurterais à des guetteurs ennemis. Il fallait pourtant que je sorte de là. Personne n'a les nerfs suffisamment solides pour supporter d'être sur le gril pendant plus d'une journée. Je restai à mon poste jusqu'à environ 17 heures. J'avais décidé de gagner alors, à la nuit tombée, la cabane de Turnbull et de prendre le risque de franchir les montagnes à la faveur de l'obscurité. Mais tout à coup, une auto remonta la route, ralentit et s'arrêta à quelques mètres de moi. La brise se levait et l'occupant voulut allumer une cigarette. C'était une voiture de tourisme, une Torpedo, dont l'intérieur était encombré d'un assortiment de bagages. Un seul homme s'y trouvait, et, par un curieux hasard, je le connaissais. Il s'appelait Marmaduke Jopley et constituait un affront à la création. Espèce d'agent de change véreux, sa spécialité consistait à flatter les fils aînés de bonne famille, les jeunes pères riches et les vieilles ladies un peu faux-folles. Marmy était, je le compris vite, un familier des soirées mondaines, des parties de polo et des résidences secondaires pour le week-end. Cet habile maître chanteur aurait rampé sur le sol pour flatter servilement quiconque possédait un titre ou un million. Lors de mon arrivée à Londres, j'eus à m'adresser à son bureau pour affaires, et il m'invita aimablement à dîner à son club. Dès notre arrivée, il joua tout de suite les « M'as-tu vu ?» et me rebattit les oreilles avec ses duchesses, tant et si bien que son snobisme me donna la nausée. Par la suite, lorsque je demandai à quelqu'un pourquoi personne ne lui avait botté l'arrière-train, il me répondit que les Anglais respectaient le sexe faible. Quoi qu'il en soit, je l'avais alors devant moi, tiré à quatre épingles, dans une belle auto neuve, visiblement en route pour rendre visite à l'un ou l'autre de ses distingués amis. Une drôle d'idée me vint à l'esprit, et en un clin d'œil, je bondis dans la voiture et empoignai mon homme par l'épaule. « Salut, Joplay ! » m'exclamai-je. « Quelle bonne surprise, mon cher !» Il fut saisi d'une frayeur épouvantable. Il me regarda bouche bée et il haleta. « Qui diable êtes-vous ? » « Je m'appelle Haney, » répliquai-je. « De retour de Rhodésie. Tu te souviens ?»« Bon Dieu ! L'assassin !» fit-il d'une voix étranglée. « Lui-même ! Et il va commettre un autre assassinat, mon cher, si tu ne fais pas ce que je te dis. Retire ce paletot et donne-le-moi. Ta casquette également. » Livide de peur, il obéit. Par-dessus mon pantalon sale et ma chemise rustique, je revêtis son élégant paletot de conducteur que je boutonnais haut pour cacher les défectuosités de mon col. J'enfonçai la casquette sur ma tête et complétait ma tenue par ses gants. En un instant, le poussiéreux cantonnier était métamorphosé en un des touristes les plus élégants d'Écosse. Sur la tête de Joplay, je plaquai l'indescriptible chapeau de Turnbull en lui interdisant d'y toucher. Puis, non sans peine, je fis faire demi-tour à sa voiture. Mon projet était de refaire le chemin en sens inverse, car mes poursuivants, ayant déjà aperçu le véhicule, le laisseraient sans doute passer sans y prêter attention, d'autant que ma tête présentait quelque ressemblance avec celle de Marmy. « Maintenant, mon gars, lui dis-je, tiens-toi bien sagement. Je ne te veux aucun mal. Je ne fais qu'emprunter ta voiture pour une heure ou deux. » Mais si tu me joues un tour, et surtout si tu l'ouvres, aussi sûr que Dieu me voit, je te tordrai le cou. C'est entendu ? Je pris grand plaisir à cette promenade vespérale. Joplay et moi descendîmes la vallée pendant une huitaine de miles, traversant un village ou deux où je ne pus m'empêcher de remarquer plusieurs individus d'aspect louche qui traînaient au bord de la route. C'étaient là les vigies que je craignais si l'on m'avait aperçu dans un autre costume ou en autre compagnie. De fait, ils nous regardèrent passer avec indifférence. L'un d'eux toucha même sa casquette en guise de salut, et je lui répondis aimablement. Comme la nuit tombait, j'engageai le véhicule dans une vallée attenante qui, d'après le souvenir que je gardais de la carte, conduisait à une région déserte de la montagne. Bientôt les villages furent derrière nous, puis les fermes, et enfin les dernières chaumières furent dépassées. Nous atteignîmes une lande reculée où la nuit voilait peu à peu le reflet du soleil couchant dans les flaques marécageuses. Nous fîmes halte à cet endroit. Je tournai obligeamment la voiture et restituai ses effets à Jopley.
Merci bien, lui dis-je. Finalement, tu m'as été beaucoup plus utile que je ne l'aurais imaginé. Maintenant, file et va prévenir la police.
Comme je m'asseyais sur le coteau pour regarder les feux arrière de la torpedo décroître, je méditais sur les différents délits dont je m'étais rendu coupable. Contrairement à l'opinion générale, je n'étais pas un assassin, mais j'étais devenu un sacré menteur, un imposteur sans vergogne et un voleur de grand chemin, avec une prédilection pour les voitures de luxe toutefois.